Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches, tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Langue de Prune, sur Prune 92 FM. Ça faisait un moment qu'on voulait faire l'émission de mars sur le langage en politique. On s'était dit, ce sera les élections présidentielles, donc tout le monde ne parlera que de ça, dans la rue, à la télé. Et bon, en fait, on parle de plein d'autres choses, de la guerre, du Covid, et pas beaucoup des élections. Faut dire qu'il y a des candidats, et surtout un candidat qui fait pas vraiment campagne, et il y en a d'autres qui font campagne, mais qui parlent pas de grand-chose. Mais bon, on va quand même s'intéresser au langage en politique. On va essayer de voir comment on s'exprime pour diffuser ses idées, pour convaincre, débattre, manipuler, faire la révolution, gagner des élections. On va parler des mots qu'on peut entendre dans la bouche des politiciens et politiciennes, à droite, à gauche, et à l'extrême droite et à l'extrême gauche y compris. Donc tout de suite, quelques extraits.
Mais il faut laisser dans le privé comme dans le public ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail.
Cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède.
C'est pas simplement en allant au salon, en déambulant, pour regarder en tapant sur le cul des vaches, qu'on défend l'agriculture.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
Avec les sondages, n'importe quoi est possible. Par exemple, moi j'ai lu un sondage où le Père Noël arrive en première position à l'élection présidentielle, suivi de près par Charlot.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Ah, les paroles, c'était beau. On va aussi parler d'éloquence et de l'apprentissage de la communication en politique avec Riwan. Bonjour Riwan.
Salut.
On ne va pas vous faire croire qu'on sera neutre politiquement dans cette émission, parce que ce n'est pas possible d'après nous. On pourrait faire tous les efforts du monde, on n'y arriverait pas. Personne n'est neutre et faire croire qu'on peut faire preuve de neutralité, c'est même un peu malhonnête, je trouve, parce qu'on cache les biais qu'on peut avoir. Donc on va vous dire... D'où on se situe quand on parle ? Quel est notre rapport à la politique ? Louis, je t'écoute.
Moi, je me situe plutôt dans une gauche que je décris radicale. Donc, voilà. Et toi, Zélis ?
Je me décris plutôt dans une gauche que je décris comme radicale, cette phrase.
Ça va, on s'entend bien.
Et vous avez remarqué, il n'y a que Louis et moi aujourd'hui. Malheureusement, Axel et Guillaume n'ont pas pu venir, mais elles sont dans nos cœurs à tout jamais. Et ils reviendront dans la prochaine émission. Donc vu qu'on a plein de choses à dire sur la politique, on a dû laisser de côté notre chronique « À qui la faute ?» pour ce mois-ci, mais elle reviendra le mois prochain. Par contre, vous pourrez en apprendre plus sur les mots pour désigner les mamies dans la chronique « D'ici et d'ailleurs » et vous découvrirez l'origine du mot « radicalisation » dans l'étymologie en folie. Donc tout de suite, pour commencer, je vais remplacer Guillaume pour vous parler des gens de droite, de comment ils parlent justement. Remettons-nous un peu en tête, c'est quoi la droite ? La droite, c'est un courant politique conservateur qui prône l'économie libérale, qui est très attaché à la liberté, à l'ordre et qui se concentre sur l'individu par rapport au collectif. Il y a pas mal de partis politiques de droite en France actuellement. Il y a les Républicains, donc, qui étaient l'UMP à l'époque. Je suis un peu vieux jeu, je pense. Mais il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas forcément. Soyons libres, le mouvement de la ruralité, le trèfle, les nouveaux écologistes, Alliance solidaire des Français de l'étranger et résistons. Et puis, dans l'histoire de la Ve République, on a eu plusieurs présidents qui venaient de ce bord politique. Il y a eu Charles de Gaulle, Pompidou, Jacques Chirac, Sarkozy, Macron. Je suis désolée, je ne voulais pas dire Macron. Pardon. Dans leur discours, ainsi que dans celui des autres politiciens qui composent ces partis politiques, il y a des mots qui sont souvent employés pour montrer leur vision, leur idéologie, et aussi parfois avec une stratégie de communication. Je vais vous faire un petit top 10 des mots les plus utilisés. Est-ce que déjà vous avez des idées de ce qu'il pourrait y avoir dans ce top 10 ?
Ouais.
L'autonomie.
C'est pas dedans.
Sécurité ?
Ah oui, ça.
Peut-être.
Et liberté aussi.
Ah.
Même si la sécurité est la première des libertés.
Bon, on verra, ça va arriver en milieu de classement. Le tout premier du top 10, c'est la France. Et français, française. Parce qu'évidemment, à droite, la patrie, c'est très important. À droite, on aime son pays plus que le reste du monde. Après, en deuxième position, on a le travail, bien sûr, parce que la valeur travail, c'est très important. Pour les gens de droite, les politiciens de droite, plus on travaille, plus on a de mérite, bah, plus on réussit dans la vie, plus on devient riche. Et puis dans ces discours sur le travail, il y a aussi souvent la promesse de mettre fin au chômage, de le diminuer. On trouve aussi ensuite gouvernement, et puis État, loi, qui sont des termes qui montrent que bah, justement à droite, ce qui est important, c'est l'ordre et c'est la hiérarchie du pouvoir. Un peu plus étonnant, le mot suivant, c'est « ensemble », qui montre qu'ils essaient de créer un peu une idée de groupe. On est ensemble pour diriger le pays, on fait partie du peuple. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, dans le top 10, on va avoir le mot « réforme ». Ce n'est pas très étonnant, puisque la droite n'est pas particulièrement révolutionnaire. Et enfin, justement, « sécurité ». Ah là là, la sécurité c'est très important, mais à quel prix, je sais pas. Et puis c'est vrai qu'il est beaucoup utilisé aussi pour faire peur aux gens et jouer sur la peur pour pouvoir être élu. Après on a le mot monde, ça c'est pas spécialement particulier à la droite. Et puis le dernier mot du top 10, c'est république, qui pendant longtemps était vraiment un mot hyper associé à la droite. Et plus le temps passe, plus il est utilisé par la gauche. Et maintenant quand on dit qu'on n'est pas républicain, qu'on n'aime pas la république, c'est qu'on est méchant. Bien sûr, il y a plein d'autres mots qui sont très employés par la droite. Une mention spéciale pour président, emploi, Europe, société, immigration. Il peut aussi y avoir des petites exceptions avec le vocabulaire employé par certains politiciens. Il y a des politiciens qui vont employer certains mots, ce sera un peu leur marque de fabrique. Par exemple, Jacques Chirac, il disait beaucoup « démocratie » ou « action ». Il commençait aussi souvent ses phrases, enfin il mettait souvent dans ses phrases « naturellement ». On peut penser qu'il essayait de le faire pour se faire remarquer, se distinguer des autres. Il disait aussi beaucoup respect, dialogue, solidarité, environnement, de très beaux mots. Je ne sais pas s'il y croyait vraiment. Voilà, avec tout ça, vous pouvez réussir à vous faire un petit bingo, je pense, ou prendre un shot à chaque fois qu'un de ces mots est utilisé dans un discours. Ça peut permettre peut-être que ce soit un peu plus agréable à écouter.
Langue de prune.
Vous êtes dans Langue de prune, 92 FM. Et après avoir parlé de la droite, on va parler de l'extrême droite. On va voir avec Louis, est-ce que c'est les mêmes éléments de langage qui sont utilisés ou est-ce qu'il y a des différences ?
Ouais, du coup, comme Azilis vient de vous dire, on a parlé de la droite. Maintenant, on va passer à la version que je vais décrire sobrement comme vraiment pas sympa, l'extrême droite. D'abord, les points communs, parce que ce n'est pas forcément toujours facile de différencier facilement de la droite de l'extrême droite. Parfois, il y a des nuances qu'on retrouve dans la droite, hein, maintenant. Donc, pour les différencier, je vais commencer par dire en quoi ils ne se différencient pas. Donc, d'abord, les points communs, comme je disais, tout comme la droite, l'extrême droite a un programme économique qui est ultra-libéral. Il y a question d'une grosse dérégulation économique, c'est assez extrême. Il n'est jamais vraiment question d'améliorer la sécurité du travail ou quoi que ce soit, uniquement d'optimiser au maximum les revenus des entreprises et des grandes fortunes. Mais contrairement à une droite classique, Azélis vient de vous le dire, dans la droite, il y a un certain attachement à la République. Ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas à l'extrême droite. Au tout début, où on est arrivé en République, que ce soit la 3e, la 4e ou la 5e, l'extrême droite trouvait que la République, c'était plutôt un gadget, quelque chose qui ralentissait l'avancement de la France dans le monde et qu'au final, changer un peu de représentant politique à la tête de l'État tous les 4 matins, bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus optimisé. Valait peut-être mieux un petit bon roi ou un bon petit dictateur, ça permettrait d'aller un peu, plus vite. Une autre différence aussi qu'on va retrouver dans la bouche de certains, enfin même de toutes les extrêmes droites, ça va être au niveau du populisme. C'est pas une exception seulement de l'extrême droite. Le populisme, c'est pas que l'extrême droite, mais c'est plutôt la manière dont ils vont faire ce populisme. Ainsi, on va souvent retrouver dans la bouche de certains, comme Marine Le Pen, des éléments de langage qui sont habituellement réservés à la gauche, c'est-à-dire la protection des travailleurs, l'aide aux plus démunis, ce genre de choses. Évidemment, il ne faut pas se tromper, ce n'est que de la façade. Car on voit bien que dans les mairies d'extrême droite, tout ce qui relève de l'aide aux plus fragiles sont immédiatement supprimés. Je pense notamment au planning familial, c'est en général une des premières victimes. L'identité est un autre marqueur classique du langage de l'extrême droite. Il va être question de défendre l'identité du peuple français, qui aurait une culture catholique prétendument millénaire, qui serait également le même peuple qui aurait une ascendance qui remonterait jusqu'aux Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, on l'a tous déjà entendu, c'est sorti de nos manuels, mais pas forcément de l'esprit de nos personnages politiques. Une sorte de permanence d'un peuple qui aurait toujours existé. Et surtout, surtout, qui serait aujourd'hui en danger de disparaître. C'est pour ça qu'on entend malheureusement aujourd'hui parler de plus en plus de grands remplacements. Jusqu'à droite, cette idée que les Français se font envahir par des peuples étrangers dont le but serait de faire disparaître la France et son peuple. Ce qui nous mène à un langage qui va être un peu plus propre au fascisme. Oui, parce que l'extrême droite, c'est pas une unité entière. Il y a plein de manières d'être d'extrême droite. Ça peut être en étant royaliste, ça peut être en étant uniquement catho-tradit, mais aussi en étant fasciste. Et c'est un peu plus à ça que sur ça que je vais m'attarder maintenant. Donc chez les fascistes, on va retrouver l'idée que la France serait face à un danger qui serait mortel et immédiat. On l'entend bien, hein, Éric Zemmour, c'est son grand dada, il lui dit tout le temps, le danger, il est maintenant, il est aujourd'hui, il est mortel, c'est la disparition de notre civilisation très bientôt. Et donc face à un tel danger, il serait vital de se défendre par tous les moyens possibles. Ainsi, les opposants deviennent des traîtres, les étrangers des envahisseurs, les non-chrétiens souvent des terroristes. Tout ça dans l'idée de défendre une pureté raciale fictive. Pour verser dans l'actualité, c'est également pour ça que l'extrême droite a autant de mal à condamner aujourd'hui l'agression russe de l'Ukraine. Car l'Ukraine est le berceau de la culture russe, c'est entre autres choses une mission civilisatrice que Poutine a l'intention de mener. Une idée qui ne peut que séduire les tenants d'une civilisation française immuable, ils comprennent au fond l'objectif de Poutine. Pour terminer, parlons du rapport de l'extrême droite avec la vérité. C'est une des techniques rhétoriques les plus habituelles de l'extrême droite. Énoncer des idées ou des appréciations les plus choquantes possibles, même si elles sont entièrement fausses, afin d'empêcher l'adversaire de s'exprimer. On le sait bien, ça prend 10 secondes de dire une grosse connerie, mais il faut plusieurs heures pour prouver que c'était effectivement des conneries. Cela permet donc à l'extrême droite d'envahir le débat public en se targuant de rejeter le politiquement correct ou simplement de refuser les vrais faits en expliquant simplement être en désaccord. Au final, le désaccord avec la réalité, c'est plutôt une bonne manière de décrire ultimement l'extrême droite et son discours.
Merci beaucoup, Louis. Après tout ce que tu viens de nous dire, on va écouter « Porcherie » du groupe Berrurier Noir. Parce que c'est un morceau contre le Front National. La légende raconte que c'était la chanson de fin de soirée sur le quai Wilson à la fête de la musique 2019, juste avant la charge des flics. Tout ça pour mettre une bonne ambiance.
Les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, les porcs sont pifres, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent. dynamité par les courants. Des sages conduits à la démence, mais t'en deviens ultra-violence. D'un côté le système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout fini en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inonde.
Alors maintenant, on va passer à l'interview de Riwan pour parler un peu de communication et tout ça. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton parcours militant, politique ?
Oui, bah, salut, moi c'est Riwan. Du coup, je suis militant au NPA. Mon parcours militant politique, c'est me dire que j'ai commencé à m'engager dans la lutte sociale lors de la réforme du Code du Travail, dans la bagarre contre la loi El Khomri 2016. C'est là où ça a un peu commencé, quoi. Et suite à ce mouvement-là, j'ai compris qu'il était important de s'organiser, de rentrer dans un parti pour pouvoir changer les choses. Voilà, c'est un peu depuis cette période-là que je suis au NPA.
Ok, super. En parlant de NPA, on t'a aussi invité, parce que dans mon souvenir, tu t'es présenté à des élections municipales.
C'est ça, ouais. J'étais candidat aux élections municipales pour le NPA, donc à Nantes.
Et t'as gagné, j'imagine.
Ouais, on a fait 688 voix, exactement. Mais bon.
Et donc là, aujourd'hui, on va parler ensemble d'éloquence. Donc de l'art de bien parler, la capacité à persuader par ses mots. Pendant l'Antiquité, la rhétorique, l'art de l'éloquence, était hyper important. Et puis, l'écrit a pris de plus en plus d'importance et ça a un peu éclipsé l'éloquence. Là, ça revient un peu sur le devant de la scène avec les concours d'éloquence, tout ça. Et donc, est-ce que d'après toi, l'éloquence, c'est important pour militer ?
Alors, je ne sais pas, après, c'est bon ce qu'on entend par éloquence, mais je crois qu'il est important de se faire comprendre des gens qu'on veut convaincre et quand on cherche à exprimer des idées et ouais, à les partager, quoi. C'est important d'être assez clair, surtout quand on manipule des concepts ou la théorie politique, c'est important de correctement s'exprimer. Après, faut, à mon sens, l'éloquence, c'est pas que. Je veux dire, bien parler et réserver en tous les cas à des professionnels, quoi. Je pense qu'on peut, à différents niveaux, être éloquent. Donc voilà, c'est un peu ce que je dirais.
Et tu penses quoi de... Alors du coup, c'est moins l'éloquence que la communication en général, de l'importance de s'exprimer sur les médias, les réseaux sociaux et tous ces trucs.
Je pense que c'est important parce que les gens regardent, quoi. Les gens s'informent aujourd'hui beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc c'est un peu... c'est un peu à la fois compliqué parce qu'il y a toute cette question de, des algorithmes et de comment c'est partagé, relayé, quoi, on va dire. Mais en même temps, moi, je pense que c'est important d'y être, de partager nos idées aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, c'est incontournable. Surtout quand on voit le temps de parole que peuvent avoir l'extrême gauche, notamment pour ce qui est du NPA dans les antennes, les radios et les émissions de télé. Donc pour compenser, ouais, je pense qu'il faut essayer de s'exprimer sur les réseaux. Ouais.
Tu disais tout à l'heure qu'on n'est pas obligé d'être un professionnel pour être éloquent. Ça me fait penser aux membres de gros partis qui ont les moyens de se former à ça, de se former à la communication, qui suivent du media training, ça s'appelle apparemment. Je pense que ça, c'est en anglais pour faire un peu classe. Qui font appel à des agences de communication pour les aider. J'imagine qu'au NPA, c'est pas aussi développé.
Non, clairement, on n'a pas ces moyens-là, quoi. Mais même la question des moyens, c'est aussi, nous, on est un parti militant, quoi. On n'est pas un parti de professionnels de la politique. On est tous des travailleurs, des travailleuses, des étudiants dans certains cas, quoi. Nous, c'est d'abord l'auto-formation qui nous permet de militer, quoi. Que ce soit sur les idées ou... on fait des stages de théorie politique, ou etc. Et on a surtout cette habitude d'intervenir dans les luttes et les bagarres. Donc le premier champ où on intervient, où on communique, on va dire, c'est dans les assemblées générales, dans les réunions, dans les grèves, etc. Donc c'est d'abord par là qu'on se forme, quoi, on va dire, sur le terrain. Et après, non, on n'a pas de coaching. Je sais que le copain Philippe Poutou, là, pour les présidentielles, après, on fait ça en interne, quoi. C'est-à-dire que t'as des copains qui lui posent des questions et qui lui... Bon, qui essaie même d'être plus dur parfois que les journalistes, quoi. Et qui l'entraîne un petit peu comme ça pour s'y habituer, ouais, parce que c'est sûr que c'est pas simple.
Et alors, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu t'es un peu... T'es devenu militant avec la loi travail. Et je vais te dire toute la vérité. Pendant la loi travail, moi aussi, j'ai commencé avec la loi travail. Et donc, j'allais aux AG à la fac. Et je me souviens, quand tu parlais à cette époque-là, que tu parlais hyper bien. Et j'étais hyper impressionnée. Je ne sais pas si tu étais hyper impressionnée, Louis. Et j'en parlais avec d'autres camarades. Et je me rendais compte que tout le monde, en fait, a quelqu'un comme ça, quand ils ont commencé à militer, qui parlait hyper bien et qui les a impressionnés. Et même une fois qu'on n'est plus étudiant, étudiante, il y a toujours un peu ce truc, je trouve, de... On fait parler les personnes, enfin, les personnes qui parlent le plus sont souvent celles qui sont le plus à l'aise. Il y a un côté un peu cercle vicieux. Je ne sais pas comment ça marche au NPA. Est-ce que vous essayez un peu de répartir la parole?
On fonctionne comme ça, si tu veux. Tout le monde peut s'exprimer et parler. Après, est-ce qu'on limite ceux qui parlent trop? Parfois dans les assemblées, on se limite à 2 minutes, 3 minutes de temps de parole parce qu'il y a des copains, ils peuvent parler des heures. Pas forcément toujours le plus intéressant. Mais du coup, ouais, on se limite un peu comme ça. Après, répartir la parole. Il y a aussi le truc que parfois, si t'es d'accord dans un débat, t'as pas forcément envie de rajouter ou de prendre la parole juste pour dire que t'es d'accord, quoi. Parfois, ça n'a pas forcément d'intérêt. Je crois qu'on essaie de faire ça aussi. On essaie de. Nous, on fonctionne beaucoup en tour de parole, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réunion, voilà, on lève la main, on s'inscrit, et puis chacun a le droit de parler, quoi. Se couper la parole, ce genre de choses, vraiment, on évite, ouais.
Et pour les prises de parole un peu publiques, que ce soit les prises de parole dans des manifs ou dans les médias, là, est-ce qu'il y a une discussion sur qui va le faire? Est-ce que tout le monde ose le faire autant?
Quand c'est dans les médias, si on a des porte-paroles nationaux, que ce soit Olivier Besancenot, il y a Damien aussi, etc. Pendant plusieurs, quoi. Du coup, on va dire qu'ils ont été choisis en interne parce que, bon, eux, on sait qu'ils sont rodés un petit peu à s'exprimer et puis qu'ils veulent le faire surtout, quoi. On va pas envoyer des camarades qui n'ont pas du tout envie, qui vont les entrer dans les pieds, ce serait pas intéressant. Donc, pour ce qui est des médias, ouais. Après, comme je disais, vu qu'on a un parti de militants, si tu veux. On a tous un peu l'habitude de s'exprimer autour de nous, quoi, que ce soit dans des luttes ou quoi, etc. Donc, on privilégie le fait que tout le monde, on est tous un peu remplaçables là-dessus, quoi.
C'est vrai que je pense qu'il y a un côté un peu difficile parfois à oser prendre la parole quand c'est pour la première fois, je pense. Est-ce que tu te souviens de toi, de ta première prise de parole un peu publique? Qu'est-ce qui a fait que cette fois-là, tu as osé le faire?
Il y a les exemples que tu citais à la fac, il y a eu... Mais là, je crois qu'encore, je ne réalisais pas forcément toujours trop... si tu veux, parfois, tu passes un peu au-delà de ton... Quand tu es en colère ou quand tu as quelque chose à défendre, un peu au-delà de ton stress, quoi. Prise de parole un peu publique. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir pris pour les étudiants, on va dire, la parole devant une AG de grévistes de cheminots. Il y avait 150 cheminots et cheminotes en face de moi, et ouais, là j'avais un peu plus les pétoches, quoi. C'était une prise de parole publique, mais c'était pas la même.
Je comprends. Et donc la communication en politique, on cherche à diffuser ses idées, je pense que t'es d'accord, ouais. Quand même un peu à convaincre les gens. Et du coup, il y a toujours un peu le risque de vouloir convaincre à tout prix. Il y a beaucoup de politiciens, de politiciennes qui vont verser un peu dans la manipulation. Comment tu fais, toi, pour bien avoir cette frontière-là en tête et quand tu parles à éviter ce risque de manipulation?
Manipuler... Je vois ce que tu veux dire. Tu vas utiliser la rhétorique et des éléments de langage pour perdre un peu les gens. Moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, quoi, parce que c'est notre but, il est de convaincre des gens par des idées, un petit peu par la conscience, quoi. On veut élever un peu la conscience des gens et que les gens soient conscients de ce qu'ils discutent. Il ne s'agit pas de faire des cartes ou de les utiliser, quoi. C'est d'abord les idées qui priment, quoi. Donc, comment faire ça? C'est donner, en fait, les moyens et les des armes critiques, quoi, pour que les gens puissent aussi de répondre. Et c'est pas juste défendre un discours et empêcher la contradiction, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent répondre, puissent débattre avec moi. Évidemment, soit d'accord, ça reste le but quand même, quoi. Mais non, y a pas de empêcher de réfléchir, c'est vraiment ça qu'on essaie d'éviter, quoi.
Ouais, donc c'est les arguments en premier et la forme après, quoi. Mm-hmm. Merci beaucoup à toi, Riwan, c'était très instructif.
Ouais, merci à vous.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Et maintenant, on va écouter ce que pense Didier Super des gens qui bossent. Attention, c'est un petit peu profond.
En fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con. Qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir.
Les gens qui bossent.
Mais qui c'est qui se gêne pas pour que les coches fassent des booms.
Les gens qui bossent.
Ils s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait jamais de délinquants.
Les gens qui bossent.
Ils exploitent la planète et puis tant pis si ça pète.
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent.
À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés.
Les gens qui bossent.
Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui.
Les gens qui bossent.
Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, à bas les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, à bas les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas quoi la ramener.
Bon, combien là? Oh putain les mecs, on a fait 2 minutes 4 et le format c'est 2.30, 2.40. Eh, faut qu'on y retourne là, ok? Allez, 3, 4.
Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, et allez on se lâche. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, eh, ils sont pires que les nazis, c'est des américains. Oh.
Vous êtes dans Langue de Prune sur 92 FM. Maintenant qu'on a bien parlé de la droite, Louis va nous décrire le langage politique de gauche.
Et oui, on va donc maintenant s'intéresser au langage politique de la gauche. Alors je préfère prévenir tout de suite, dans la gauche, je vais principalement parler du PS et de la LFI. Bien qu'à gauche, on perçoit le PS comme de droite, et à droite, la LFI comme d'extrême gauche. Bon, j'ai pas envie d'avoir une thématique vide. Et honnêtement, on va se calmer les gars, on peut au moins dire que allez, Hamon et compagnie, c'est du centre-gauche, et au pire, la social-démocratie, ça reste une perception de la gauche pour certains. Bon, faut bien en parler un petit peu, malheureusement. Bon, bah voilà, c'était pour aller un peu. Maintenant, passons au sujet. Déjà, c'est quoi la gauche? C'est souvent simplement décrit comme le camp des progressistes. C'est un peu vague. Pour être un peu plus exact, mais en restant simple, l'idéologie de la gauche, c'est de donner une égalité des chances à chacun, peu importe son origine sociale ou ses revenus. Les moyens d'y parvenir sont divers, que ce soit par la redistribution des richesses ou par un État qui intervient le plus possiblement pour aider les ou par un État qui intervient le plus possible pour aider les défavorisés, voire si nécessaire, gêner les plus favorisés. Mais comment s'exprime la gauche ? Une des meilleures manières de souligner la particularité du discours de gauche, c'est de l'opposer à celui de ses adversaires. Là où l'enseignement catholique, par exemple, est décrite comme une école libre par la droite, la gauche parle d'école privée. C'est d'ailleurs intéressant de savoir que cette différenciation sémantique entre école libre et école privée est largement apparue en 1984, lorsque le gouvernement Mitterrand tente d'intégrer l'enseignement privé dans le public. On n'oserait jamais faire ça aujourd'hui. Autre exemple, là où la droite parle d'austérité économique, la gauche parle de rigueur, car c'est un terme savant plutôt que moralisateur. Bon, à la fin, ça reste la même chose. Une autre opposition très connue, ça va être celle des cotisations sociales, que la droite va désigner comme une charge sociale. Vous savez, toutes ces cotisations sur votre feuille de paye qui font la différence entre votre salaire brut et net et qui permet de payer votre santé, votre chômage et de manière générale de participer à la solidarité sociale. Voilà d'ailleurs un autre mot courant dans la gauche, la solidarité. Autant insister sur le mot, c'est également chercher à parquer l'adversaire, c'est vrai, dans le champ de l'égoïsme. Vous l'aurez donc compris. Le discours de la gauche se veut généralement comme un discours optimiste. Il est question, par exemple, d'accueillir, d'aider, d'accompagner, de permettre une autonomie. Ce genre de rhétorique est tellement courante qu'elle en devient parfois incontournable pour le camp adverse. C'est comme ça qu'on finit avec des superbes lois comme celle de l'autonomie des universités. Terminons enfin avec l'utilisation des métaphores par la gauche. Selon moi, on trouve pas mal de perles dans ce champ-là. Je vais m'intéresser au cas précis de Mitterrand pour ça. Il en avait sorti quelques-unes qui étaient pas mal. Par exemple, pour accoler gaullisme et monarchie, il va parler des barons du gaullisme. Pour Valéry Giscard d'Estaing, il dit qu'il le verrait bien baron du chômage, marquis des inégalités, comte de la hausse des prix, duc de la technocratie, prince de l'électoralisme et roi de l'anesthésie. C'est pas exactement subtil, mais le message est clair. Je trouve même que ça résonne bien avec ce vieux concept, mais qui revient pas mal aujourd'hui, de monarchie présidentielle. Et je terminerai sur cette dernière phrase, toujours de Mitterrand. La gauche fait des programmes, la droite fait des promesses.
Et maintenant, notre première chronique.
D'ici et d'ailleurs.
J'espère que vous n'avez pas oublié, mais au début du mois de mars, c'était la fête des grands-mères. Bon, c'est vrai que c'est une fête très commerciale et j'avoue, je l'ai oublié. Mais c'est quand même du coup le moment parfait pour parler des appellations de nos chères mamies. Je ne sais pas, vous, comment vous appelez vos grands-mères ?
Mamie.
Oh là, bah, moi, ça dépend pas mal. Hein. Il y a eu aussi bien mamie, mémère, mamgose, qui est breton. Et pourtant, il n'y a pas de breton dans ma famille. Donc c'était assez large.
Ah ouais. Bon bah moi j'ai une mamie aussi. Et mon autre mamie, on l'appelait Cannes parce qu'elle s'appelle Ivane et que ma sœur c'est l'aînée de la famille et elle savait pas prononcer je pense. Donc il y a des choses que t'as dit Louis dont on va parler un peu dans la chronique. Parce qu'en effet selon la région on parle pas de nos mamies pareilles. Le plus courant partout en France c'est mamie, mémé, grand-mère. Et dans le coin en Loire-Atlantique, nous c'est plutôt ça qu'on utilise. Mais par contre, en Lorraine, dans le nord de la Franche-Comté et en Normandie, on va pas mal utiliser justement mes mères. Tout s'explique parce que tu viens du nord, toi, non ?
Non, je viens pas du nord, je viens de la Normandie. Mais
ben c'est ça, c'est plus au nord, la Normandie.
Le nord, c'est le Nord-Pas-de-Calais.
Bon, alors c'est quand même, je veux pas te vexer, un terme qui est plutôt utilisé par les personnes de 50 ans et plus, mes mères.
c'est des grands-mères, donc bon.
Il y a l'occitan mamé et ses dérivés mamet, mamette. Du coup, plus utilisé près de la Méditerranée, à Montpellier, à Marseille. En Alsace, il y a ma-ma-ma, qui est emprunté au dialecte alsacien. Tous ces dérivés régionaux, ils ne sont pas très utilisés, mais il y a quand même plein de petits-enfants de tous les âges qui les utilisent. Ils sont quand même un petit peu moins vieillissants que mes mères. Et puis, si on va un peu dans les autres pays, on trouve bonne-maman en Belgique, grand-maman en Suisse. Il y a aussi grand-maman qui est utilisée en majorité au Canada aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'Atlas linguistique de l'Est du Canada, qui est paru en 1980 et qui a une dizaine de tomes, et ben à l'époque, c'était le terme « mémère » qui était majoritaire. Voilà, donc j'espère que je vous ai... Enfin, j'espère. Donc, peut-être que je vous ai donné des idées pour changer d'appellation votre grand-mère. Peut-être que si un jour vous avez des petits-enfants, vous pourrez choisir comment on vous appelle. Peut-être que vous pouvez choisir aussi qu'on vous appelle mes mères, même sans avoir de petits-enfants.
Langue de prune.
Et Louis, maintenant, revient pour nous parler de l'extrême-gauche.
Bon, en effet, c'est encore moi, mais bon, vous comprendrez, avec les réductions de personnel, il faut que je prenne pas mal la parole aujourd'hui. Bon, donc, je vous ai parlé juste avant de la rhétorique de gauche. Mais maintenant, qu'en est-il de l'extrême-gauche? Y a-t-il même une différence qui vaille la peine d'être décrite? Bon, déjà, commençons. Rien que ce terme d'extrême-gauche, il peut être un peu décrié. Vous m'avez entendu un peu plus tôt. Quand je me suis décrit, j'ai voulu me dire comme de gauche radicale, parce que je n'aime absolument pas ce terme d'extrême. Je trouve que c'est fait pour faire peur. Donc bon, pour des raisons d'accessibilité du discours, je vais continuer à parler d'extrême-gauche. Mais vous comprendrez que c'est un terme qui peut être débattu. Donc bon, commençons déjà par ce qui sépare l'extrême-gauche de la gauche. Là où la gauche plus classique, donc comme je disais plutôt PS et LFI, est plutôt électoraliste et réformiste, c'est-à-dire qu'elle croit pouvoir accéder à ses buts en étant élue et en faisant des réformes classiques, l'extrême-gauche a plutôt tendance, alors c'est pas une vérité générale, hein, c'est plutôt une tendance, à rejeter cette voie-là et prône plutôt l'action directe. L'un n'exclut pas l'autre, hein, cependant. On peut bien voir la gauche appelée à la révolte ou l'extrême-gauche se présenter au présidentiel, au municipal, sans être uniquement une candidature de témoignage. Aussi, les mouvances dites d'extrême-gauche sont très diverses, du communisme de Roussel au trotskisme du NPA et lutte ouvrière, en passant par les anarchistes et les autonomes, un très vaste champ idéologique existe. Il n'est pas possible de trouver un champ lexical qui leur soit commun à tous. Ce que je vais dire rassemble plus ou moins globalement ces idées, mais il y aura toujours des exceptions, on ne peut pas y échapper. Une des grandes caractéristiques de ces mouvances, c'est le rejet des élites. C'est ainsi que les propriétaires vont être décrits comme des parasites, les personnages politiques souvent décriés comme des oligarques, les patrons de grandes entreprises comme des racketeurs, des exploiteurs. L'idée est souvent de soit criminaliser l'ennemi, soit parfois de le déshumaniser. Bien que la critique de la police soit courante dans tous les mouvements de gauche aujourd'hui, une attention toute particulière est aussi accordée à l'extrême-gauche. L'expression de ce défiance envers la police se décline sous de nombreuses insultes et autres colibés. La plupart du temps, ça reste assez animalier quand même. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un insulter un policier ou un gendarme de porc. Il n'y aura également pas d'hésitation à décrire toute répression comme la preuve d'un état policier. Une exception doit quand même être faite pour le PCF, qui lui encourage plutôt la présence policière. Hein. C'est plutôt d'ailleurs caractéristique de ces mouvements communistes classiques. Encore une fois, c'est une généralité, hein. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Il va également y avoir le rapport à la propriété. Que ce soit populaire ou étatique, il va souvent y avoir des appels à abattre ou à réduire la propriété privée. Ainsi, on va parler de réquisition ou de nationalisation des biens, le plus souvent des entreprises, hein, particulièrement lorsque celles-ci sont accusées de fraude fiscale et autres magouilles. L'extrême-gauche n'hésitera pas à accuser ces entreprises de vol aggravé, puisque l'exploitation des travailleurs est déjà perçue comme un vol de la richesse produite. Étant donné que ces mouvances ne sont généralement pas liées à des partis politiques et rejettent l'électoralisme, le langage s'y fait plus direct. On n'hésite pas à parler de racisme, de xénophobie, à décrire Gérald Darmanin comme un violeur, etc. Là où les autres partis politiques vont être un peu plus timorés sur ce genre d'expression. Enfin, puisque le modus operandi de l'extrême-gauche est principalement de l'action directe, celle-ci se retrouve souvent en conflit direct. Et on retrouve donc des discours qui s'opposent radicalement pour décrire ces actes. Là où cette gauche radicale parle d'occupation ou de réquisition de lieux inhabités pour loger des personnes dans le besoin, les opposants vont parler de squat. Quand il est question d'organiser des blocages, les adversaires n'hésitent pas à parler de prise d'otages, aussi peu élégant soit ce terme. Là où certains décriraient cela comme du vol, l'extrême-gauche prône parfois la pratique de l'autoréduction. Donc voilà, c'est assez bref, mais c'est tout le temps qu'on peut accorder à l'extrême-gauche aujourd'hui. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est une mouvance qui est extrêmement large, je n'ai pas parlé de tout le monde, je n'ai pas parlé de toutes les particularités. Il faudrait faire des recherches beaucoup plus longues encore.
Merci beaucoup, Louis. Alors maintenant, on va écouter un morceau qui s'appelle Le Déserteur. C'est une vieille chanson écrite par Boris Vian et qui là est chantée par Marc Robine. Mais ça reste toujours une chanson d'actualité.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans la tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai la porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes un bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer, et que je sais tirer.
Vous êtes dans Langue de Prune sur 92 FM et maintenant notre deuxième chronique.
L'étymologie en folie.
Puisqu'on parle politique aujourd'hui, on va s'intéresser aux origines d'un mot très très utilisé dans le débat politique de ces dernières années, la radicalisation, donc le fait de devenir radical. Le mot radical, ça vient du latin radix, qui veut dire la racine. Et ça a donné un adjectif en latin tardif, radicalis, qui désigne ce qui est relatif à la racine, à l'origine et par extension ce qui est fondamental. Donc à la base, vraiment, le mot radical, ça voulait dire ça, quoi. C'était quelque chose par rapport à l'origine, quelque chose d'originel. Et puis par extension, ça a commencé à désigner ce qui est intense, absolu. C'est ce sens qu'on trouve dans l'expression « une guérison radicale », c'est une guérison totale. Donc jusque-là, le terme avait plutôt un sens positif, ou au moins neutre. Mais les choses ont commencé à tourner au vinaigre quand le mot est entré en politique. Il a d'abord été utilisé au Royaume-Uni. Un « radical », j'ai pas un très bon accent, c'était un partisan de réforme extrême. Le radicalisme, c'était une idéologie politique qui est née à la fin du XVIIe et qui visait le suffrage universel, masculin, parce qu'il faut quand même pas déconner, l'égalité religieuse, la suppression de l'esclavage, le libre-échange. Et le mot est arrivé en France en 1830, pendant la Révolution de Juillet. Il désignait alors les révolutionnaires, parce que le mot républicain avait été interdit. Puis c'est au début des années 2000 que le mot a commencé à avoir un sens péjoratif. C'est venu de l'anglais, radicalisation, qui est utilisé pour parler d'un virage vers l'action violente. Donc quelqu'un de radical, c'est quelqu'un qui a une idéologie extrême. Et on a commencé à dire extrémiste pour bien dire que c'était pas bien. Cette idéologie, elle peut être politique, sociale, religieuse. Et la personne radicale, elle va contester l'ordre établi par la violence. Donc on voit que là, le mot, il a commencé à un peu recouvrir deux concepts. La radicalité des idées et la radicalité des modes d'action. Les deux sont confondus, alors qu'on peut très bien avoir des idées radicales et rester sur son canapé à rien faire, ou adopter des modes d'action violentes pour défendre des idées modérées. Donc puisqu'on condamne généralement la violence, on en vient aussi à condamner les idées radicales. Donc c'est devenu un mot complètement péjoratif maintenant, et il y a même plein de démarches pour lutter contre la radicalisation. On le voit avec par exemple Édouard Philippe, qui avait listé un petit peu des signes de radicalisation. Donc là, il parlait d'islam radical. Et alors, je suis tombée sur une vidéo de la chaîne YouTube du Figaro qui essaie d'expliquer ce processus de radicalisation. Alors là, dans un sens plus global, il ne précise pas par rapport à quelles idées. Donc on va en écouter un petit extrait.
Suivons Paul, par exemple. Paul vit dans un pays démocratique, égalitaire, qui prône le vivre ensemble. Il évolue dans une société en mouvement, confrontée à toutes sortes d'événements comme des guerres, des conflits internationaux. Il regarde la télévision, écoute les débats, suit les polémiques, observe les politiques sociales et économiques mises en place dans son pays. Mais Paul enchaîne les galères, il se sent seul, et il a plutôt l'impression de vivre dans une société minée par les discriminations et les stigmatisations. Bref, il ressent un décalage entre cette promesse du vivre ensemble et ce qu'il vit au quotidien.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de Paul et de sa radicalisation ? Est-ce que vous avez été ému par la musique ?
J'ai été transporté. Hein.
Moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on a un peu l'impression, et c'est peut-être juste moi, que Paul, il a un problème parce qu'il ressent ce décalage avec le vivre ensemble, qu'il a un problème parce qu'il voit des problèmes.
Et c'est un peu ça. Hein. Il sent qu'on n'est pas tous égaux, donc je pense qu'il va devenir terroriste demain.
Ouais, moi, ça m'a fait penser aussi un peu au spot... pour la, comment on appelle ça, prévention routière. genre, tu sens qu'il faut mettre ta ceinture à la fin, quoi.
Vous avez fait un peu l'équivalent, hein, pour comment repérer si ton ami devient, est en train de devenir radical.
C'est peut-être le même compositeur, je pense. On va écouter un autre extrait de cette vidéo, parce qu'elle est vraiment géniale.
Si les réponses qu'il trouve sont modérées, alors Paul aura plus de chances d'emprunter une voie apaisée. Il s'engagera peut-être en politique ou dans la vie associative, ou participera au débat public. Il aura peut-être une implication dans la vie de son quartier et renouera sûrement avec cette fameuse notion du vivre ensemble.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit être centriste, du coup ?
Non, moi, je retiens qu'ils disent qu'il faut s'engager en politique. Ça c'est intéressant. Donc, il faut faire de la politique, c'est vrai.
Ça va, au moins, c'est encourageant. J'ai vraiment l'impression de me dire demain il est parti en Syrie, je sais pas. c'est vraiment comme ça qu'il présentait l'extrémisme à l'époque, l'extrémisme radical religieux.
Ouais, bah justement, c'est vrai que à la base radical, c'est censé pour pouvoir parler de toutes les idées, mais quand on l'entend, en fait, quand on entend le mot radicalisation, c'est vrai que c'est surtout pour parler quasiment que pour parler d'islamisme. Et on entend ce mot-là partout dans les médias. On a l'impression que c'est un phénomène énorme. Il est apparu à la suite des attentats du 11 septembre. Et depuis, son utilisation a été multipliée par 4. Surtout dans les journaux de droite, qui utilisent deux fois plus le terme que les journaux pas de droite. Et du coup, ça prend un peu toute la place. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autres mouvements radicaux. On parle très peu, par exemple, de la radicalisation d'extrême droite. Alors que les jeunes radicalisés fachos, ils tabassent, ils tuent, ils commettent des attentats en France et ailleurs. Mais ça ne va pas être décrit pareil ni autant. Et aussi le problème avec ce mot de radicalisation et d'islamisme, c'est qu'il donne l'impression que le nœud du problème avec les attentats terroristes commis au nom de l'islam, c'est l'islam. Et il est beaucoup utilisé, ce mot de la radicalisation. On l'entend beaucoup dans la bouche de celles et ceux qui décrivent l'islam comme une religion de violence. Et qui décrivent les musulmans et les musulmanes comme des personnes qui ne sont pas intégrées à la société. Donc je trouve que c'est une histoire bien triste que celle du mot radical, qui a dérivé de manière pas très cool. C'est une histoire qui nous montre que dans notre société, il ne faut pas être trop entier, absolu, convaincu, qu'il ne faut pas être trop. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup entendu « Ah, t'es trop gentille, t'es trop généreuse ». Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être trop gentil, c'est censé être positif la gentillesse. Donc je pense qu'on devrait revendiquer d'être radicalement gentil, généreux, content, tout ce qu'on veut.
Pour rebondir un peu là-dessus, ça devient presque un superlatif radical. C'est comme quand il parle d'islamisme radical, ce qui n'a aucun sens, étant donné que l'islamisme, c'est déjà ce qu'on appelle un islam radical. C'est pour présenter... ils finissent par dire que l'islam est de toute façon une religion dangereuse et que l'islamisme radical, c'est encore plus dangereux que ce qui est déjà dangereux.
Pour nous faire bien peur.
Ouais, c'est peut-être eux les radicaux, en fait.
Des modérés radicaux. Enfin, est-ce qu'ils sont vraiment modérés? Donc après avoir parlé de tous ces discours politiques de gauche comme de droite, je pense que j'ai plus les entendre pareil. J'essaierai de repérer un petit peu des trucs qui reviennent. Et puis c'était agréable de voir que la politique, enfin nous aussi on peut la faire et nous aussi on peut parler politique et on peut essayer d'exprimer nos idées. On a vu que la gauche et la droite, c'est pas du pareil ou même dans la langue et dans les mots qui sont utilisés. Donc on va faire un petit jeu. Je vais vous dire des citations politiques et il faudra deviner le bord politique de la personne qui l'a dite. Et si vous trouvez qui c'est encore mieux. Il faudra justifier aussi. Alors, je commence une première, assez facile. Me faire passer pour quelqu'un de raciste, je trouve ça choquant. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe.
Nadine Morano.
Fort, donc de droite.
Et qu'est-ce qui t'a mis sur la voie?
Bah, la citation, je la connais très bien, je la connais par cœur. J'ai une amie plus noire qu'une arabe. Ce truc-là est incroyable. Ça me rappelle c'est le Gorafi, je me souviendrai toujours d'un commentaire, parce qu'ils avaient fait un article justement pour se moquer de Morano qui avait sorti ça. Et il y avait un mec en commentaire qui avait dit « Je ne peux pas être raciste, j'ai mangé du taboulé l'autre jour et j'ai trouvé ça modérément bon.
» Pas radicalement bon.
Il reste modéré, ça va.
Voilà, c'est ça, hein, il reste modéré.
Alors, une autre, assez facile aussi. Hein. J'ai pas l'habitude d'être seule. On arrive chez le patron en groupe, on séquestre en groupe.
Ah, c'est...
J'aurais bien Besancenot ou un truc dans le genre, moi.
Ouais, joli,
ouais, mais Philippe.
Ouais, c'est Philippe Poutou. Ouais. Bah ouais, la séquestration de patron. Donc, de gauche ou de droite?
D'extrême gauche.
Je crois que tu n'aimais pas le terme. Bon, alors une un peu plus dure. Ce n'est pas plus mal que ce soit une femme qui soit élue pour faire le ménage.
Qui soit élue pour faire le ménage. Alors, voilà.
Ah, ça pourrait être... Donc ça, c'est d'extrême droite, je pense.
Bah, je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça fait référence au dégagisme. On pourrait presque voir Mélenchon dire ça, en vrai.
Non, mais je dirais... Ouais, je sais pas, Marine Le Pen ou Pécresse.
En vrai, il y a un petit rapport avec Pécresse, parce que je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo d'elle, là, c'était pendant les élections régionales de 2015, où elle faisait une petite action, où elle ramassait des déchets dans la nature. Et du coup, c'était filmé, évidemment, pour se faire de la pub. Et puis, elle avait dit « Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage ». Et elle était partie. Donc ça, c'était Valérie Pécresse. Mais ce n'est pas elle qui a dit la citation « Ce n'est pas plus mal que ce soit une femme qui soit élue pour faire le ménage ». C'était pendant la primaire socialiste de 2012.
Tant de 2012 ?
Moche.
Je vois même pas à quelle femme ils font référence dans ce truc-là.
Tu te souviens plus des élections de 2012 ?
2012. Ah mais si, je suis con, c'était Ségolène Royal, j'ai confondu avec 2017.
Ouais, Ségolène Royal. Du coup, pas vraiment d'extrême droite, mais...
Ah pardon, excusez-moi. Mais en fait... le PS a peut-être un peu changé sa vision du féminisme aussi, mais bon.
Ouais, ça fait un peu, j'essaie de faire une phrase classe choc, mais ça marche pas du tout. Bon, alors le dernier est quand même assez facile. Casse-toi, pauvre con.
C'est Sarko, ça, non?
Ouais.
Salon de l'agriculture. Hein.
Ouais, c'est ça. Et vous vous souvenez à qui il avait dit ça?
À qui il avait dit ça? Ah non, je me souviens plus à qui il avait dit ça. Il y avait dû y avoir des opposants qui étaient venus l'emmerder, j'imagine.
Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui l'interpellait sur sa politique et bon, il a répondu ça, je me souviens plus.
Ouais, c'est pas ce même type qui avait dit « touche-moi pas, tu me salis, une connerie dans le genre ».
Ouais, ouais, c'est ça. C'est un gars qui avait refusé de lui serrer la main et qui avait dit que ça allait le salir de lui toucher la main.
Ah oui, c'est ça. Ouais, Sarko, ouais. Quand je pense que Pécresse a essayé de le reprendre récemment en redisant qu'elle avait passé le Karcher.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Et Sarko a répondu qu'elle était mal polie, du coup. C'est assez cocasse.
L'hôpital qui...
C'est exactement ça, hein. C'est très cocasse. Hein.
Bah, vu que je vois, là, vous avez un bon niveau, on peut peut-être faire un jeu un peu plus difficile. Alors, c'est un jeu qui... Alors, je ne sais pas s'il vient d'Uzul, mais il l'a fait dans une de ses émissions, où je vous dis un mot, un objet, et il va falloir dire si c'est plus de gauche ou de droite, et expliquer pourquoi. Alors, un micro.
Bah c'est de gauche, c'est pour les orateurs.
Est-ce que les orateurs, c'est que de gauche?
Moi, tu me dis orateur, je pense à des grandes personnes comme qui n'aimerait pas Taubira, enfin.
Ou Besançon en meeting aussi, c'est pas mal.
Voilà, c'est ça.
Mais est-ce que les gens de gauche, ils n'ont pas de la voix et ils crient pas ce qu'ils n'ont pas besoin de micro?
C'est vrai qu'un vrai tribun, il n'a pas besoin de micro. Il gueule.
Oui, se fait entendre. Ouais, mais je pense, je sais pas, les rappeurs, par exemple.
Ah,
le micro aussi.
Ah ouais, c'est vrai.
Et t'as envie donc d'enquiquiner tout le monde et tu dis ah ouais, et donc gynéco.
Alors, l'alphabet, c'est de gauche ou de droite?
J'ai envie de dire que c'est de gauche parce que c'est un truc d'assisté.
Super, parce qu'on est assisté à gauche. Ouais, non, de gauche aussi parce que justement nous on reprend possession du langage. Voilà, je dirais.
Et c'est pas de droite parce que c'est un peu élitiste, parce que y a des gens qui sont analphabètes.
Ouais, en même temps on est pour l'éducation pour tous, donc.
Ah, je vois pas ça de droite, non, l'alphabet, non. Ouais. Moi je mets ça à gauche.
Je veux tout mettre à droite, je crois. Et les adjectifs, en grammaire, les adjectifs qualificatifs.
Ah bah c'est de droite, ça. Ça, c'est de droite. C'est pour parquer, c'est pour mettre dans des cases.
Ouais, mais tu mets dans une case et après tu mets des adjectifs pour nuancer. Donc.
Non, moi je mets ça de droite.
Ouais, c'est d'accord. En même temps, il faut bien désigner aussi ses combats, son ennemi, ses objectifs.
Ouais, mais c'est pas pareil quand c'est à gauche. Ouais. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Il y a les bons et les mauvais adjectifs.
Enfin, peut-être, je pense que je vais essayer d'arrêter d'utiliser des adjectifs.
Ça va être très compliqué. Hein.
Là, j'en ai pas utilisé dans toute ma phrase.
J'ai même dit que c'est plus facile quand on est prof et qu'on sait bien ce qu'est un adjectif. Parce que bon, quand tu penses pas, tu les sors facile, hein, je pense. Hein.
On arrive à la fin de notre émission. On va se retrouver le mardi 26 avril, à midi aussi. À ce moment-là, on saura qui est notre président, notre présidente. Donc, on sera plus ou moins de bonne humeur. Donc, on va vous dire au revoir et à bientôt.
Bah, à plus, hein.
Ouais, à bientôt. Et voilà, je profite pour faire ma com, au pire, vous couperez, quoi.
Non, vas-y, vas-y.
Voilà, meeting de Philippe Poutou, le 31 mars à Nantes. Voilà, donc Philippe Poutou vient à la salle Nantes-Nord. À René Cassin, donc si vous voulez le voir en meeting, 31 mars à 20h.
Eh ben on y pensera, j'irai même peut-être.
Salut.
Salut.
À plus dans le bus,
à plus tard dans le car,
à bientôt dans le métro,
à mardi dans le taxi,
à très vite dans le cockpit.